Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et place à l'épisode! Bonjour à toutes et à tous. En ce nouvel épisode, j'accueille aujourd'hui Tiphaine Turluche, la fondatrice des bottes d'anémone. Tiphaine est fleuriste et elle a fait naître son projet en 2020 dans le golfe du Morbihan. Tiphaine a réussi le pari de ne proposer que des fleurs françaises et de saison, alors qu'aujourd'hui, il faut le savoir, 90% des fleurs que l'on achète sont importées. Dans cet épisode, Tiphaine donc nous partage son parcours, parce qu'elle n'a pas toujours été fleuriste, mais aussi ses motivations et sa vision du métier de fleuriste aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir l'histoire inspirante de Tiphaine sur comment elle a transformé cette nouvelle passion en une entreprise florissante, tout en préservant l'environnement, en apportant du sens et de la joie à ceux qui reçoivent ces magnifiques créations. Alors bonjour Tiphaine, ravie de réaliser cet épisode avec toi. On s'est connus il y a à peu près un an lors d'une réunion avec la marque Bretagne. Pour commencer, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es et quel a été jusqu'à maintenant ton parcours ?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Tiphaine Turluche, j'ai 35 ans. Je vis aujourd'hui au Bonneau, dans le golfe du Morbihan. Je suis une passionnée de la mer et obsédée des sports nautiques et aquatiques depuis toujours. Donc, j'ai fait beaucoup de voile, beaucoup de planches à voile à l'origine. Je suis devenue monitrice de voile, etc. Et quand sont arrivés les choix d'études, on m'a dit, fais d'abord tes études et puis après, tu verras si tu peux bosser dans la voile. Et j'ai réussi assez vite à faire des stages, puis à bosser pendant toute la première partie de ma vie professionnelle dans le domaine de la course au large. Donc, c'est les courses de bateaux autour du monde principalement. Et donc, pendant 10 ans, ça a été ma vie de gérer la logistique et les opérations. Donc, tout ce qui était déplacement d'humains et de matériel, de plein de nationalités, dans plein de pays, sur des temps précis, des temps courts, avec tout le lot d'aléas météo qu'il pouvait y avoir dans la course en bateau. Un peu à l'image de ce qui se passe en Formule 1, mais avec un peu moins de millions. Mais voilà, c'était un peu ce type de projet dans lesquels j'étais des écuries, avec des enjeux sportifs très forts.
Ouais, j'imagine, une vie où tu l'as vécue à 100% du coup.
Oui, on peut même dire à 350%. C'était très intense. C'est une phase de vie où on est tous dans un métier passion et en fait tu vis en dehors du monde réel parce que on a besoin de créer cette bulle pour créer un esprit d'équipe, être ensemble sur les mêmes objectifs, gagner une compétition, gagner un trophée qui étaient des trophées très durs à gagner. C'était les anciens disaient que c'est des choses que tu gagnes qu'une seule fois dans ta carrière. Donc on mettait toute notre énergie au service de réussir. Et donc, en fait, assez souvent, ça voulait dire ne pas être du tout chez soi pendant plusieurs mois et que, en gros, le cercle familial et amical, c'était très complètement mélangé avec le cercle pro et on connaissait tous la vie de chacun, la famille de chacun et chacune. Et donc, ouais, beaucoup d'intensité et aussi des choses, ça peut faire peur. On peut se dire, ouais, c'est un peu trop, ça prend ta vie. Et en même temps, moi, ça a aussi été des années très fortes et des choses que je trouve pas dans le monde professionnel classique. Même si bon, je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'ai quand même mon lot de piments. Les liens humains qui se forment dans une équipe compétitive de sport, c'est quelque chose que dans le monde du travail normal, on connaît pas. Et donc, il y a des choses très fortes et des gens qui sont des amis très, très forts qui sont toujours là.
Oui, parce que vous vivez en fait 24 heures sur 24 tous ensemble, oui. Sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, évidemment, c'est ta vie en fait.
Oui, c'est ta vie, c'est les galères, quelqu'un qui a un décès dans sa famille. En plus, en logistique, moi, je connaissais la vie de tout le monde parce qu'il fallait renvoyer dans un autre endroit pour un imprévu. Et donc, on était tous très, très proches.
Ouais, ouais, j'imagine. Mmh. Donc, ça à fond pendant 10 ans.
Oui.
Avec, en plus, tu as réussi à faire de ton métier ta passion. Alors, pourquoi avoir changé et notamment être allée sur les fleurs ? Rien à voir.
Complètement rien à voir. Personne n'avait jamais été fleuriste et je connaissais pas. Personne. Moi-même, zéro expérience, à part juste avoir un bouquet chez moi quand j'étais là assez longtemps pour le voir. Et en fait, ça s'est fait sur le temps long. Il n'y a pas eu une sorte de crise de conscience ou quoi que ce soit. Dans mon cas, il y a eu plusieurs déclencheurs sur 18 mois. Le premier déclencheur, c'était en 2018 quand on a remporté la course qui s'appelait la Volvo Ocean Race avec mon équipe de l'époque, et qui était une course qui me faisait rêver depuis petite. Et donc en fait, d'une certaine façon, j'ai coché une case. Et donc dès ce jour-là, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce qui va continuer à me motiver au point de vouloir donner absolument toute ma vie, toute mon énergie et toute ma santé au service d'une équipe si j'ai déjà coché un truc, une aventure fabuleuse. Et donc cet été-là, j'ai acté que je me donnais 2 ans pour préparer ma sortie de la course au large.
Parce que ça devait passer par là, du coup.
Bah ouais, parce qu'en fait, en course au large, j'étais déjà dans un des plus beaux projets qui me faisait le plus rêver. Donc je voyais pas trop lequel allait pouvoir me créer de la, ouais, d'être stimulée à ce point-là, quoi.
Ouais.
Et moi j'ai vraiment besoin de défis et de trucs à relever, donc je savais que j'allais quitter la course au large. J'ai d'abord exploré le monde sportif et notamment les JO de Paris qui s'annonçaient, mais on était en 2018, donc j'ai candidaté à des profils de jobs super intéressants où j'ai été shortlistée. Mais à l'époque, on était donc avant Covid, et moi, je voulais pas quitter la Bretagne. Je me voyais être capable de faire des allers-retours à Paris, si nécessaire, mais télétravail, ce qu'on faisait dans la voile sans problème. Mais pour Paris 2024, à l'époque, c'était du plein temps à Paris. Et j'ai dit non. Du coup, enfin, c'était pas. J'ai toujours rêvé d'être au bord de l'eau, et j'ai toujours tout construit pour être au bord de l'eau, donc c'était pas une option. Et clairement pas pour un boulot. Et donc, ça a éliminé le sport. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Avec mon conjoint, on s'est installé au Bonneau. On a commencé à avoir notre premier jardin. Donc, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai commencé à voir les saisons évoluer au fil des mois et à renouer avec un truc que je connaissais de petite. Dans le jardin de ma grand-mère, il y avait un rosier jaune magnifique. Je me mettais le nez dedans et il sentait super bon. Et en fait, pendant 10 ans, j'étais en avion et en hôtel. En été permanent, c'est-à-dire que l'hiver, on était en hémisphère sud, pour suivre les bonnes conditions d'entraînement ou de course. Et d'avoir ce jardin pour la première fois, de le voir évoluer, je me suis dit, ah, magique, l'évolution, les saisons, la graine, ça fait la fleur, enfin, juste des trucs un peu comme ça, sans tout de suite aller vers la fleur. Et puis, quelques mois plus tard, je m'étais engagée bénévolement à la SNSM en tant que sauveteuse en mer. C'était un truc de très longue date que je voulais faire, mais je bougeais trop. Et donc là, en arrivant dans le golfe du Morbihan, je savais que j'allais déjà moins bouger. J'avais en tête que j'allais me calmer aussi sur les voyages. Et du coup, bah, ça a aussi fait évoluer mon logiciel de valeur petit à petit. Je pense là où ça s'est vraiment déclenché, genre ça y est, faut partir de la voile, c'était un an plus tard, donc finalement en 2019. Je me suis retrouvée un matin avec un marin qui était donc un sportif de haut niveau, qui était en jour de compétition, qui a pété un câble absolu contre ma collègue. Pour X ou Y raison, la bouteille de lait était arrivée 10 minutes trop tard. Dans son contexte et dans notre contexte de jour de course où on ne casse pas une routine parce qu'il faut absolument être au top de soi-même, il avait raison. Mais dans mon nouveau contexte où parfois en semaine, j'étais en train de porter assistance à quelqu'un qui était peut-être en train de mourir en mer. 3 jours après, je me retrouve et il pète un câble pour une bouteille de lait.
Quand tu étais avec la SNSM, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Du coup, j'ai commencé à percevoir le décalage entre la vraie vie et la vie dans le sport de haut niveau. Et je me suis tout de suite dit, si tu perçois le décalage, c'est que tu vas plus être la meilleure personne pour les accompagner. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment dit, bon, bah, ce sera vraiment plus ça. Et puis, très, très vite après, sont arrivées les fleurs. Il n'y avait vraiment aucune raison logique. Il n'y a pas eu un stage ou une rencontre. Et les fleurs, donc approfondi le sujet, et là j'ai découvert que les fleurs c'était importé dans 9 cas sur 10, que c'était bourré d'intrants chimiques, que ça voyageait en avion, qu'il y avait une profusion de plastique vraiment indécente. Et du coup, ça a mis un coup d'arrêt très vite. Je me suis dit non, moi mon nouveau métier il sera pas au service de déglinguer mon terrain de jeu qui était l'océan. Et je voyais tous ces trucs, tu vois, la relation de cause à effet de les pesticides dans l'océan, le plastique dans l'océan. Enfin, quelques semaines plus tard, vraiment le hasard, je sais pas, la synchronicité qui change sa vie un petit peu. J'étais dans une salle d'attente et il y a une double page sur le collectif de la fleur française qui parle de tous ces acteurs en France qui essaient, donc producteurs et fleuristes, de remettre au goût du jour et de recréer et de relancer cette filière fleurs et fleurs responsables. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais aller les rencontrer et là, il y a un défi à relever. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où dans mes tripes, j'ai mordu et je me suis dit, ouais, ok, défi à relever, j'y vais. Parce que j'ai, je pense, un peu ce caractère, soit un peu folle, soit un peu aventurière. Ça dépend comment on voit les choses. et voilà. Donc, c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, OK, il y a un truc à faire et j'y vais. Et je verrai bien ce que ça donne.
Ouais, comme quoi, il y a des signes. Comme tu dis, le hasard a voulu que tu tombes sur cet article-là, alors que tu étais justement dans cette réflexion.
Ouais.
Et je crois qu'il y a un autre aspect aussi qui a fait que tu as quitté la voile, c'est que tu organisais, mais tu n'en faisais plus.
Ça, c'était le deal de départ. Je le savais en arrivant dans la voile que j'étais pas une athlète. Donc, moi, mon rôle, c'était d'accompagner les athlètes. Et j'étais très heureuse comme ça. Et donc, en effet, j'ai perdu mon lien avec l'océan en tant que plaisir. Et c'est vrai que au moment de la reconversion, je me suis dit, je serais heureuse quand on pourra avoir notre petit bateau à nous et nous balader dans le golfe. C'est un vrai paradis.
Ouais, et puis là, ça, c'est un loisir.
Oui, exactement.
Raconte-nous un petit peu. Tu souhaitais aller dans le milieu de la fleur, mais faire quelque chose où beaucoup t'ont dit « mais non, c'est pas possible ». Parce que non seulement tu veux des fleurs françaises, mais aussi toute l'année.
Quand je me suis lancée, je me suis dit « ok, l'état des lieux, c'est quoi ?» L'état des lieux, c'est tu as 9 fleurs sur 10 qui sont importées, tu l'as dit dans l'intro. Elles arrivent d'autres continents, et non pas de Hollande. Elles transitent par la Hollande, mais c'est-à-dire Éthiopie, Équateur, Kenya, etc. Elles arrivent en avion réfrigéré. Et en moyenne, elles parcourent 10 000 km. Cette partie-là, c'est déjà un peu dégueu. Tu regardes du côté de la Hollande. Moi, ça a été mon réflexe de dire, OK, la Hollande, c'est pays proche de la France, c'est le même continent, ça doit sans doute être mieux. Les champs de tulipes qu'on voit tous, ça doit être mieux. Tu approfondis le sujet. Et là, tu te rends compte qu'ils utilisent là-bas des serres chauffées éclairer artificiellement jour et nuit pour recréer des pseudo-conditions de productivité maximale des végétaux. Donc, pas bon non plus, parce que du coup, la consommation et l'émission de gaz à effet de serre énorme quoi, et d'énergie. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément d'intrants chimiques qui étaient diffusés soit par aspersion, soit dans les voies d'irrigation des végétaux qu'on retrouvait. Donc, c'était des produits interdits en Union européenne, mais que comme on importait et que c'était du non-alimentaire, ils étaient autorisés, on pouvait les importer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser en Union européenne, mais ils étaient OK. Et donc, en Belgique, tu retrouves, parce que les études ont eu lieu en Belgique, c'est la même chose en France, mais plus de 25 produits chimiques interdits en Union européenne dans les urines des fleuristes. Donc, je me dis, OK, il y a vraiment plusieurs sujets à adresser. Et moi, je vais essayer un truc et je vais voir si ça marche. Et je vais essayer 3 choses clés qui sont vraiment le socle fondateur des bottes d'anémone, c'est des fleurs françaises toute l'année, quelle que soit la saison, des fleurs de saison au circuit le plus court, selon leur disponibilité, et une démarche zéro déchet, zéro plastique à usage unique et zéro mousse florale. Et ce socle fondateur, il est toujours là, 3 ans et demi plus tard, et on passe à travers la moulinette de ce socle fondateur tout nouveau projet qu'on veut lancer. Et si ça ne marche pas, on ne le lance pas. On a eu des demandes de déco de Noël où on ne savait pas le faire sans plastique ou sans déchets. Et donc, on a dit non tant qu'on n'a pas trouvé la solution.
Et donc, tu l'as dit, 3 ans et demi, donc ça marche.
Ouais, carrément. L'entreprise s'est développée. Donc, je suis partie de toute seule dans ma chambre d'amis au Bono, au garage de mon voisin, à la première personne en alternance, dans un atelier à Vannes. Et puis là, l'an dernier, on a déménagé dans un très grand atelier de 250 mètres carrés, juste au nord de Vannes. Et maintenant, on est une équipe de 5 personnes. Alors, avec évidemment, tout le monde n'est pas encore à plein temps, on a cet objectif, mais on a une activité qui double chaque année. Et donc, ça se développe beaucoup. Et après, on a aussi lancé une ferme florale. Donc, une partie des fleurs qu'on utilise dans nos compositions provient de notre propre production. Ça nous fait progresser sur beaucoup d'aspects, notamment de comprendre des enjeux qu'ont nos producteurs et productrices. Et donc, voilà, c'est un peu en train de devenir un super, super projet et fascinant.
Ouais, j'imagine. Et puis le fait, d'y aller comme ça progressivement, comme tu le dis, c'est fascinant. Ça veut dire aussi qu'il y a une vraie demande.
Oui, complètement. En fait, c'est vrai que quand je me suis lancée, on m'a dit c'est impossible ton truc. Ce n'est pas possible parce que c'est pas possible d'avoir accès à des fleurs françaises toute l'année, encore moins des fleurs bretonnes. Tu verras, essaye et tu verras. Et au bout d'un an, j'étais sur les rotules, j'avais fonctionné toutes les semaines, j'avais trouvé un peu étoffé tous mes producteurs, mes fermes florales partenaires. J'avais fait toutes les erreurs possibles de quelqu'un qui débute dans le métier, toutes les petites boulettes et tout. Et donc j'étais crevée, mais par contre, je me suis rendu compte que je venais de fonctionner un an chaque semaine non-stop avec des fleurs françaises. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc à faire, mais le sujet, il est vaste et il est beaucoup plus grand que moi, donc il faut que je me fasse accompagner. À partir de là, je me suis fait aider par des structures comme la Fondation Le Roc, les Mousquetaires, dans le parcours accélérateur, le Village Baïséa ensuite. Et voilà, donc j'ai été accompagnée pour construire ça et je le suis toujours parce que c'est vraiment... moi, je m'attaque à un enjeu de filière de A à Z et tout seul, c'est impossible.
Carrément, en effet, quand tu parles, tu t'attaques aussi à cette filière donc de la fleur et tu dois être une référence aujourd'hui.
Ouais, écoute, je suis toujours un peu avec beaucoup d'humilité parce que je suis pas du métier à l'origine. Tu vois, j'étais dans la voile. Ouais. Je suis un peu un ovni qui est arrivé et qui a dit tiens, je vais essayer. Mais je suis un ovni qui avait quand même un regard un peu acéré et pas peur d'une logistique complexe, vu mon parcours d'avant.
Oui, sans doute.
Donc, il y a eu plein de choses à maîtriser petit à petit. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, les bottes d'anémone, on est moins de 10 structures fleuristes en France, sur plus de 15 000, à être engagées dans cette démarche de 100% de fleurs françaises. On s'engage dans plein de choses et il y a vraiment cette ambition de filière, de transmettre, de débroussailler les choses et vraiment de... On a un jour formulé cette phrase, c'était « prouver par l'exemple qu'il est possible de changer le monde de la fleur une tige à la fois ». C'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un y aille pour pouvoir ouvrir la voie et moi j'ai de l'énergie et j'ai envie de réussir à changer mon univers et changer cette filière. Je ne sais pas si on est une référence, mais on est moteur, c'est sûr, avec plusieurs autres structures dans plusieurs régions. On échange ensemble pour essayer de bouger notre filière et de provoquer des changements par petits pas, parce que c'est gros quand même comme sujet.
Oui, tout à fait. Et alors, sur une année, comment s'étalent justement ces collections de fleurs françaises de saison ?
Si on démarre au printemps, puisqu'on enregistre au mois de mars, les premières fleurs qui arrivent, les toutes premières fleurs, même un peu avant le printemps, c'est les anémones, puis les tulipes. Puis, avec les premiers beaux jours, on a tout ce qui est narcisse, premier frésia, etc. Puis, petit à petit, on bascule vers les pivoines, les lilas et les pivoines, arrivés vers fin avril, mai. Clairement, c'est le mois de mai. Et puis là, à partir de juin, c'est la folie. Il y a vraiment une quantité énorme et une variété énorme de toutes les couleurs, etc. Moi, j'essaie vraiment aussi de dire, parce que ça a été un frein potentiel, de dire bosser en fleurs françaises, c'est pas se limiter créativement et c'est pas limiter nos clients dans leurs attentes. On peut faire des fleurs de toutes les couleurs à tous les moments et des univers et on se doit de le faire pour montrer l'exemple comme je te disais juste avant. Et du coup, donc voilà, on est en été, arrivent les dahlias, arrivent les cosmos, les zinnias, enfin... C'est les roses, bien évidemment, et tellement d'autres fleurs. Le bleuet, nous, on est en Bretagne, les gens adorent les fleurs bleues. Il y a vraiment un truc avec les fleurs bleues. Donc, le bleuet, les pois de senteur. Et puis, petit à petit, on bascule vers l'automne avec la fin des dahlias, le début des chrysanthèmes, qui ont très mauvaise presse, parce qu'en fait, à cause des jardineries qui vendent des buissons, pas beau. En fait, un chrysanthème, c'est magnifique. Et en plus, ça tient très longtemps en vase. Donc, c'est des bouquets que les gens gardent au moins 2 semaines en général. Et puis, arrivé vers mi-novembre, les premières gelées en Bretagne font qu'on commence à rebasculer avec nos producteurs du Var, nous. Donc, de mi-novembre à soit mi-février, soit mi-mars, selon les années, selon la douceur des printemps, des débuts de printemps. Et dès qu'on bascule, nous, avec le Var, on a accès très vite à des fleurs qui sont théoriquement de printemps, mais il fait beaucoup plus chaud là-bas. Et donc, il y a des renoncules, des anémones, des giroflées, puis petit à petit on réarrive en janvier, février, les genêts, les mimosas, et donc voilà, une année au sein des bottes d'anémone et avec les fleurs françaises, c'est magique.
Ah ouais, et puis là, tout ce que tu as listé en fait comme fleurs, en effet, c'est magique, ça fait ça fait rêver. Mais il y a aussi les fleurs séchées, justement. Oui. Je pensais que tu allais me dire, pendant la période de l'hiver, on propose aussi des fleurs séchées.
Complètement.
C'est très joli aussi, des bouquets de fleurs séchées.
C'est hyper joli et hyper complémentaire. Nous, on propose des fleurs séchées toute l'année, jusqu'à plus de stock. C'est-à-dire que si à un moment, on n'a plus de fleurs bleues parce qu'on n'a plus de fleurs bleues, bah, il faut attendre la saison d'après qu'elles aient été produites, puis qu'elles aient séché. Mais ça ne représente pas forcément une grande partie de notre activité. Tu vois, je pense qu'on est à moins de 10% de notre activité en fleurs séchées. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est souvent vers les premiers mauvais jours, donc vers l'automne, que les gens se tournent vers leur intérieur et se disent « Tiens, qu'est-ce que je peux mettre ?» Et donc, on a beaucoup de demandes en fleurs séchées dans cette période-là.
Que vous produisez ? C'est-à-dire, vous avez en tête de produire pour justement en faire des fleurs séchées ?
Oui, alors donc parmi les 20 fermes florales avec qui on travaille tout au long de l'année, il y en a une partie qu'on voit vraiment sur des périodes de fleurs particulières. On a un producteur qui ne fait que des pivoines, un producteur qui ne fait que des sapins, et d'autres qu'on voit que l'hiver, et d'autres qu'on voit vraiment chaque semaine pendant toute la saison haute. Et dans ces 20 fermes florales, il y en a une qui est interne aux bottes d'anémone, avec une personne de l'équipe qui est salariée et qui s'en occupe, qui est une experte en permaculture, agroécologie, en biodiversité. Et c'est vraiment comme un terrain d'expérimentation. Et je pense qu'elle a vocation, au-delà de ça, à aussi devenir un terrain de pédagogie et de partage de ce qu'on découvre et de notre cheminement.
Et il y aura sûrement de la demande par rapport à ça, à mon avis.
Il y en a déjà, mais on n'est pas prête, en fait. On n'est pas assez équipé en termes de ressources, en termes de même le lieu. On ne peut pas se garer. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'on est limité pour le moment. Mais ça va arriver très, très vite.
Ouais, ouais,
c'est dans le projet.
Parce que même là, tu as listé quasiment toutes les fleurs qu'on connaît tous. Eh bien, il y en a certaines, enfin la grande majorité, en l'occurrence, je pense à moi, je ne sais pas à quelle époque. Alors bien sûr, les roses, les tulipes, les plus connues, on sait. Certaines que tu as listées, je ne savais pas que c'était par exemple des fleurs du mois d'août.
Mais tu dis on sait, mais tu sais, moi on me demande parfois des tulipes en août. Hein. Donc je pense que tout le monde ne sait pas et c'est normal. On n'est pas obligé d'être expert de tout en tant que consommateur, c'est super dur. Et puis on nous culpabilise beaucoup sur plein de choses. Mmh. Et moi, je trouve que chaque filière a aussi un rôle de pédagogie et de sensibilisation. De la même façon que ça s'est fait sur la nourriture avec les tomates et les fraises, bah, c'est en train de petit à petit de se faire avec les fleurs ou d'autres sujets. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui l'a formulé et j'ai trouvé ça hyper bien. C'est quand tu es pionnier en train d'essayer de transformer ton modèle ou ta filière, forcément, il y a une dimension pédagogique énorme. Et il ne faut pas la prendre à la légère. En fait, ne serait-ce que pour les bottes d'anémone, pour que les gens aillent comprendre que pourquoi il n'y a pas de boutique, pourquoi je ne peux pas choisir n'importe quelle fleur à n'importe quel moment de l'année, pourquoi elle ne me propose pas de rose à la Saint-Valentin. C'est chiant son truc. Enfin, j'ai eu ces réflexions-là et il a fallu beaucoup de pédagogie et d'exprimer en quoi parfois lâcher prise et se faire surprendre par un bouquet de la semaine et de saison, c'était presque encore plus magique. Et maintenant, j'ai ces retours-là.
Et là, tu l'as dit, tu n'as pas de boutique.
Oui.
Donc, comment tu as fait pour te faire connaître et comment tu proposes justement tes prestations aux clients ?
Pour me faire connaître, j'étais très vite présente sur les réseaux sociaux parce que bah, les fleurs, c'est très visuel. Donc, il fallait tout de suite montrer qu'il y a beaucoup de préjugés contre les fleurs de saison et les fleurs françaises. Donc, il fallait montrer qu'il y a du choix, qu'il y a des couleurs, que c'est beau, que c'est magique, que c'est vivant. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup d'aspects visuels qui étaient importants à partager très tôt. Ce qui a vraiment déclenché, même à l'intérieur de moi, une prise de conscience de ce que j'étais en train d'essayer de créer, c'est la participation à un concours 3 mois après avoir créé les bottes d'anémone. Le concours s'appelait à l'époque la Fabrica Viva et il fallait obtenir 10 000 votes et, minimum. Et en fait, pour arriver dans les finalistes. Et donc, il a fallu que je sache exprimer ce que j'étais depuis le fin fond de ma chambre d'amis en train d'essayer de faire et qu'est-ce qu'elle faisait, Tiffany, pourquoi elle a quitté la voile et pourquoi son fonctionnement est différent. Donc, à partir de là, j'ai vraiment dû exprimer clairement ce que j'essayais de faire et que j'étais pas là pour vendre des bouquets, j'étais là pour changer les choses. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les gens ont compris, que les gens m'ont soutenue aussi. Ils m'ont dit, mais oh, c'est super, on veut t'aider, comment on peut faire? Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont rerouté et c'est petit à petit à partir de là que ça s'est fait.
Comme quoi, quand on parle avec ses tripes. Hein.
Mais il fallait aussi que ça sorte de moi. C'est-à-dire que moi, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas l'exprimer au début. Et j'étais incapable, parce que je n'avais même pas saisi, je pense. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, je n'ai pas le même niveau de conscience des enjeux de ce que j'essaie de faire. Et du coup, j'évolue avec l'évolution de l'entreprise, même à titre personnel et dans mes prises de conscience.
Mais de toute façon, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est work in progress. Mmh. On avance au fur et à mesure, donc on déploie un petit peu le projet.
Oui. Une tige à la fois.
Ah, mais voilà.
Le fameux
une tige à la fois, oui. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit, parce que c'est vrai que tu as changé du tout au tout, mais c'est vrai que ton entourage, ça n'a pas dû être simple, si en plus tu dis que tu n'arrivais pas à l'exprimer.
Oui, c'est sûr. Et c'était un des trucs les plus durs. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, beaucoup de femmes aussi, en reconversion, qui ont ce genre de frein. La première réaction de ma mère, c'était d'avoir un rire, qui moi m'a beaucoup vexée. Mais en fait, elle, c'était un rire de nervosité, genre « Wow, qu'est-ce qu'elle fait ?» La réaction de mon père, c'était de dire « Mais attends, tu rigoles, tu t'es créé un réseau dans ta passion en plus. Pourquoi tu veux quitter ta passion ? Tu connais plein de monde et donc ta carrière est tracée. Tu vas recommencer de zéro dans un truc que tu connais pas. Ça va bien ou... ?» Et j'ai eu des copines qui m'ont dit « Tu nous fais un début de burn-out, prends 2 semaines de vacances et tu verras, ça ira mieux. » Mais elles n'avaient pas du tout compris. J'ai absolument pas eu de burn-out. J'étais vraiment en train d'évoluer dans mon moi intérieur et dans mon système de valeurs, quoi. Il y a eu plein de choses. Il y a aussi eu des encouragements, je te rassure. Oui. Notamment mon conjoint qui m'a dit, et lui m'a dit, c'est atypique. Et d'un autre côté, si tu t'y lances corps et âme comme tu sais faire et que t'es passionnée par le sujet, tu vas réussir un truc. Donc moi, j'ai confiance en toi et go, quoi.
Ouais.
Et en plus, il m'a aussi dit, et là, il me connaît bien pour ça, si t'y vas pas, tu vas regretter et tu veux pas être la mamie sur son lit de mort qui dit oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais aimé. Et ouais, moi, je suis vraiment comme ça. Il y a une citation qui m'a nourrie depuis toujours. Elle est en anglais, mais si je la mets en français, c'est « Un jour, ta vie va passer en un flash devant tes yeux. Assure-toi que ça vaille le coup de regarder. » Et donc, ça me guide toujours, cette citation.
Et moi, ça me fait penser à une autre citation. Vaut mieux avoir des remords que des regrets.
Oui, exactement. Moi, je suis complètement là-dessus.
Ouais.
Alors, j'en fais, hein, plein d'erreurs et plein de remords. Et tout ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais au moins, j'ai testé.
Ouais, complètement. Mm. Et justement, alors, parle-nous un petit peu de ces remords ou de ces regrets que tu peux avoir. Tout à l'heure, tu parlais de boulettes ou d'anecdotes. Ah oui. Parle-nous un petit peu d'anecdotes, justement.
Écoute, j'en ai deux en tête, là. Une des premières boulettes, c'était le premier hiver des bottes d'anémone. Mon producteur me dit « J'ai du chêne rouge ». C'était dans une liste. Je me dis « Oh, génial !» On arrivait en automne. Je me dis « C'est super, je vais pouvoir faire des bouquets avec des tons d'automne et tout, c'est super. » Je commande le chêne rouge et le chêne rouge arrive et c'est du chêne qui a été bombé à la bombe de couleur rouge. Et donc, impossible. Enfin, je ne peux pas promouvoir ça. Tu vois, moi, je considère vraiment que, en tant qu'entreprise, j'ai la responsabilité. Tout le monde, chacun, a la responsabilité de ce qu'il met dans les mains de ses clients. Et ça me guide tout le temps. Et donc, à l'époque, je me disais, impossible. Je ne peux pas, en tant que les bottes d'anémone, distribuer un truc où ça a été bombé à la bombe. Et le truc, il est mort. Il ne respire même plus, les végétaux, quoi. Donc, première belle boulette. Donc, je sais maintenant poser les questions.
Sans doute.
Ton truc est rouge, c'est normal ou c'est une nouvelle variété que je ne connais pas encore ou, parce qu'ils font aussi de la recherche et développement pour faire des hybrider des végétaux. Donc, il peut se passer des choses. Mais là, en l'occurrence, c'était clairement bombé. Et l'autre qui est trop marrante. Et ce jour-là, j'étais sous pression. Mais après, elle me fait trop rire. J'étais missionnée, c'était les tout premiers mois, pour livrer 2 bouquets. Un bouquet pour une cérémonie de deuil. Un bouquet à une dame pour une naissance. Les petits mots. Pour un des bouquets, c'était « Une page se tourne, félicitations pour cette nouvelle aventure ». Et l'autre, c'était un truc du genre « vous accompagne dans ce nouveau chapitre ». Mais c'était pas dit, il n'y avait pas le mot « épreuve », il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas tout ça. Je livre les 2 bouquets qui étaient même taille, même fleur de saison. Et sans faire exprès, j'ai mélangé les 2 mots. Et donc, je livre à l'église où il n'y a personne. Quand tu vas livrer en tant que fleuriste, tu arrives avant, il n'y a personne. Je vais livrer la dame qui venait d'avoir un enfant, du coup. Et je dis « c'est de la part de votre sœur ». Et elle me dit « c'est bizarre, je ne suis pas sûre que le mot vienne d'elle ». Et donc, elle avait reçu bonne chance dans ton nouveau chapitre, quoi. Et à côté, ils avaient félicitations, nouvelle aventure. C'est pas exactement les mots, mais ça me revient pas là tout de suite. Mais c'était vraiment, j'avais inversé les mots d'un deuil et d'une naissance qui, pris au 3e degré, pouvait marcher. Et donc, je lui dis, oh, je suis terriblement désolée et tout. Et donc, je suis retournée à l'église pile poil avant que la cérémonie ait lieu, je leur ai changé les cartes, je lui ai ramené sa carte et après j'ai soufflé et là j'ai explosé de rire, j'en ai pleuré, j'ai appelé toutes mes copines et voilà, et maintenant je m'en souviens avec mais maintenant je triple vérifie tous les mots qui partent de notre atelier à chaque fois.
En effet, c'est une belle anecdote.
Alors Tiphaine, comment vous vendez du fait que vous n'ayez pas de boutique et que vous soyez plutôt dans un atelier où vous ne recevez pas la clientèle en fait?
Exactement, on a fait le choix en fait pour plusieurs raisons. L'une d'elles étant que 25% des fleurs dans une boutique servent à décorer et donc sont achetées pour être jetées. Donc, sont mal produites pour décorer parce que tu n'entres pas dans une boutique qui est vide. Donc, il faut qu'elle soit remplie, les boutiques de fleuristes. Et c'est vrai, mais même moi, en tant que consommatrice, si je vois une belle boutique, j'ai envie d'aller dedans. Et donc, bah, voilà, c'est une dérive de notre société. Et donc, il y a 25%, c'est un chiffre énorme, qui est acheté, qui finalement est jeté et n'a servi à rien.
C'est-à-dire 25% de ce qu'achète aujourd'hui un fleuriste servira à décorer sa boutique et sera jeté. Enfin, voilà, sera invendu. Malgré tout, ça aura décoré sa boutique.
Voilà, ouais. Pour faire une belle devanture, quoi.
Oui, on ne l'imagine pas, en effet.
C'est énorme. Et en perte, c'est énorme. Et donc, moi, j'avais décidé de fonctionner en atelier. Et j'avais aussi, je savais que le défi de la fleur française, c'était l'approvisionnement. Et donc, je savais que j'allais peut-être pas réussir à avoir tous les jours des fleurs. Et qu'il y avait peut-être que certains jours, en fonction de quand mes producteurs et productrices cueillent leurs fleurs et tout. Donc, d'où le choix de l'atelier. Et donc, aujourd'hui, nos clients, et particuliers et entreprises, nous commandent de trois façons des fleurs. La première, et je ne le dis pas par ordre de préférence ou quoi que ce soit, mais la première, c'est l'événementiel. Donc, on a, chez les particuliers, c'est fleurir des mariages, des fêtes de famille, des anniversaires, des baptêmes. Et chez les entreprises, c'est fleurir des séminaires, des congrès, des inaugurations, des dîners d'affaires et tout ça. Donc, ça, on est beaucoup sollicité là-dessus. Et après, deux autres façon, et là pour le coup les gens passent par notre site internet lesbodanemon.fr, ils peuvent soit décider de commander un bouquet de la semaine pour mille raisons, pour soi, pour un anniversaire, pour remercier, pour féliciter, comme on offrirait un bouquet, mais c'est de la précommande, donc ça veut dire qu'on commande et on attend deux jours pour que nous on aille chercher les fleurs, on crée les bouquets et ensuite on puisse livrer, ou bien ils offrent un abonnement. Donc les particuliers offre très souvent, alors on a beaucoup de particuliers, par exemple des petits-enfants qui sont un peu partout en France, qui se regroupent et qui offrent un abonnement de 6 mois à leur grand-mère qui est dans le Morbihan. Et nous, on s'occupe de tout, on va livrer tous les mois à date anniversaire la grand-mère et c'est beaucoup c'est très mignon.
Ah, c'est vraiment.
Ouais. Et puis les entreprises s'abonnent pour décorer leurs locaux. Et pour les entreprises, on a un rythme différent, évidemment, parce qu'ils veulent surtout être nickel toutes les semaines et donc on les livre toutes les semaines. En zéro déchet, donc avec des compositions qui sont déjà dans les vases. Et là, quand on vient la semaine suivante, on récupère les bouquets, on change les anciens bouquets et on met un nouveau vase tout propre, nouveau bouquet. Petite étiquette pour indiquer la provenance, pour sensibiliser aussi leurs visiteurs. Et voilà, donc c'est vraiment les trois modes de fonctionnement avec les bottes d'Anemone.
Ouais, et ça marche bien.
Écoute, oui, carrément, ça se développe beaucoup. On a de très belles références qui nous font de plus en plus confiance. Ça vient avec tout son lot d'enjeux, tu vois. On a des galères sur notre site internet qui font que c'est peut-être pas à la hauteur de ce que je pensais que ça pouvait être, mais parce que c'est juste des galères techniques et que quoi qu'il arrive, c'est une entreprise en création et c'est un nouveau modèle économique qui n'existe pas. Donc il y a vraiment tout à créer et certaines choses qui, ben moi, j'ai aucune. Enfin, mon métier d'avant, c'était de la logistique et de la gestion de projet, mais aucune compétence en web marketing ni rien. Je suis intuitive, je suis curieuse, donc je comprends et j'apprends et je m'entoure. Mais avant de trouver que le problème vient de ça et qu'il faut cette compétence-là, ça me prend un peu de temps parfois.
Ouais, sûrement. Et aujourd'hui, en termes de modèle économique, de progression de chiffre d'affaires, ça évolue bien ?
Oui, complètement. On a démarré avec un chiffre d'affaires que les comptables ont jugé honorable à l'époque. Et puis, j'étais toute seule. Il n'y avait pas vraiment de charge. J'étais encore dans ma chambre d'amis. Et puis, d'année en année, chaque année, on l'a doublé. Donc, on arrive à quelque chose de pas mal. En tout cas, à la hauteur du développement qui a eu lieu. Mais par contre, on a tellement de projets que c'est difficile chaque année d'aller trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que l'entreprise se développe, mais en attendant, j'ai lancé la ferme florale. La ferme florale, c'est beaucoup d'investissements et ça prend au moins 3 à 5 ans avant d'être à l'équilibre en termes de ratio, combien ça nous coûte versus combien on économise en ayant ces fleurs en interne. L'an dernier, on a lancé la refonte du site internet pour qu'il soit plus accessible et à jour. Et puis, cette année, on est en train de lancer tout un volet pédagogique et de transmission des enjeux de biodiversité à travers la magie des fleurs. Et bah, du coup, pareil, il faut refaire des frais et tout. Donc, c'est un fragile équilibre. Et comme beaucoup d'entreprises à impact, on est toujours avec 1000 projets, 1000 idées et en phase d'apprentissage et on n'a aucun modèle existant auquel se référer. Faut avoir, c'est sûr, beaucoup de, même aussi de pédagogie envers ton cabinet d'experts comptables qui au début disent, attends, activité fleuriste, je veux la faire entrer dans telle case et en fait, je rentre pas dans les cases. Donc, faut savoir l'expliquer. Et vraiment, tu vois, la pédagogie, c'est pas que pour tes clients, c'est aussi pour tous les acteurs qui t'entourent, la banque aussi. Enfin, ouais.
J'imagine, il faut savoir convaincre.
Ouais.
Et puis considérer qu'un problème est peut-être plutôt une opportunité.
Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais.
C'est vraiment, j'admire. Hein.
Merci.
C'est fabuleux. Et pourquoi ce nom des bottes d'anémone ?
Les bottes d'anémone. Au moment où j'ai choisi, j'avais en tête qu'il y aurait deux mots, sans aucune raison. Ça aurait pu être pivoine et coquillage. Dans mes critères, je voulais que le nom ait un lien avec la Bretagne, un lien avec les fleurs et un lien avec mon histoire ou ma personnalité. Les bottes, c'est pour les bottes de pluie que tu mets avec ton ciré jaune et ta marinière quand tu viens en Bretagne. C'est pour les bottes de fleurs, une botte de fleurs, tout simplement. Les bottes, moi, en hiver, là, voilà, c'est le lien avec ma personnalité. J'aime bien mettre des... Je trouve que les gens sont tous en noir, en gris. Et j'ai un parapluie jaune qui a écrit « Voilà le soleil » et des bottes multicolores. Et du coup, on m'a dit ça un jour. « Toi, t'es marrante en hiver. » Et donc, je me suis dit « Bon, bah voilà, ça relie à ma personnalité un peu décalée parfois. » Et sur anémone. Anémone, c'est la première fleur qui pousse en janvier, fin janvier, en Bretagne. Donc, il y a une forte symbolique, un petit pied de nez à dire alors... Il n'y a vraiment pas de fleurs en Bretagne en hiver, donc ça. Et puis, la racine d'anémone, c'est anémo, c'est le vent. Et donc, le vent, pour moi, ça rattachait à mon parcours dans la voile, avant, et à la Bretagne, qui est terre de vent, quoi. Mmh. Voilà. Et du coup, après, ça s'est transformé en les bottes d'anémone. Et on avait le choix d'imaginer anémone avec un S, et ça aurait été les fleurs, les bottes d'anémone. Ou les bottes d'une personne qui hypothétiquement s'appellerait Anémone avec un A majuscule. Et là, pour le coup, j'ai juste testé les deux et tout mon entourage m'a dit non, il faut que ça soit un prénom. Et alors, du coup, depuis, tout le monde croit soit que je m'appelle Anémone, soit que j'avais une grand-mère fleuriste qui s'appelait Anémone. Et pas du tout, mes grand-mères s'appelaient Claudine et Anne. Et donc, il y a des histoires rigolotes autour de ça. Et finalement, c'est beaucoup plus profond, les raisons d'avoir choisi Anémone.
En effet. Bah, dis donc, en effet, c'est très, très recherché et très juste, en fait, tout ce que tu as pu dire.
Mmh. Ouais, c'est aligné avec
l'ensemble. Ouais. Carrément. Waouh. Et quelle est ta fleur préférée ? Est-ce que c'est l'anémone ou pas forcément ?
Eh ben, pas forcément. J'ai un problème d'émerveillement permanent avec les fleurs. En fait, et c'est ça aussi qui est super de bosser avec les saisons, c'est que c'est fabuleux quand les premières pivoines arrivent, c'est fabuleux quand les premiers cosmos arrivent, les premiers dahlias, quand les premiers chrysanthèmes. Donc en fait, toutes les 6 semaines, j'ai une nouvelle fleur préférée quand la saison évolue. Et voilà, donc je pense que je suis incapable de te dire quelle est ma fleur préférée. Et surtout, je pense que toutes les 6 semaines, ma réponse changerait.
Je te crois vraiment, parce que pour moi, ce serait pareil. Et ça me fait penser à un reportage que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Arte, sur justement les fleurs. En fait, les fleurs, elles entendent. Ils expliquent pourquoi elles sont colorées, comment marche justement la pollinisation de ces fleurs. Et le fait aussi que grâce à leurs petites graines, elles ont traversé toutes les périodes d'extinction ou autres parce que les graines restaient. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Et j'ai suivi un cours en ligne de l'Office français de la biodiversité sur le lien entre... c'était plutôt axé pollinisateur, mais du coup nécessairement très lié aux fleurs et le fait qu'à l'origine du monde, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait que des résineux. Et aussi le fait que les fleurs ont adopté des couleurs et des formes différentes de façon à attirer tel ou tel insecte.
Tout à fait.
Et c'est fascinant.
Oui, fascinant. Et ouais. En même temps, moi, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ben on s'aperçoit que ben l'évolution aujourd'hui au travers du climat ou au travers de la biodiversité, ça peut être compliqué. Et là on s'est dit ben non, les fleurs elles resteront elles.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. J'espère pas trop divaguer mais partir du sujet, mais hier soir j'ai assisté à un spectacle très beau autour de la Terre, c'était la Terre qui parlait aux humains dans le spectacle. Et elle expliquait son évolution et elle disait et tout d'un coup les fleurs sont arrivées et ma vie est devenue belle. Et c'est rempli de magie et tout ça. Et voilà, je trouve que les fleurs, c'est l'émerveillement et les émotions.
Ouais, carrément. Un gros big up pour les fleurs.
Ouais, complètement. Ouais,
vraiment. C'est vrai que ça apporte énormément. Et comme tu dis, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu aimes le plus alors dans ton métier ?
Dans la première phase des Bodes d'Anémone, j'étais très heureuse de retrouver une activité avec de la créativité. Pour moi, c'était comme une activité de méditation, créer les bouquets et tout. J'avais tout le stress de quelqu'un qui se lance et qui ne sait pas où il va. Et pour autant, quand je créais les bouquets, c'était tu as les parfums, enfin voilà, t'es transporté dans un univers trop bien. Et quand j'ai commencé à recruter, donc depuis un an, on a une personne qui est fleuriste à l'atelier, donc moi j'ai complètement lâché les rênes de l'atelier. Et on m'a dit mais est-ce que ça va aller ? Et en fait, ma réponse c'est je suis une éternelle curieuse et j'ai besoin de me nourrir en permanence de nouvelles choses, d'approfondir des sujets. Et aujourd'hui, je m'épanouis parce que je vois une équipe qui s'approprie des choses qui sont nées au fin fond de ma tête et qui arrive à en faire des choses encore plus belles, encore plus fortes et encore plus professionnelles. Et en plus, moi, je vois que ce que j'essaie de faire au fond porte ses fruits. Je vois des gens qui changent leurs pratiques. Je vois des fleuristes qui demandent à venir se former de toutes les régions. On avait quelqu'un du Périgord il y a 2 semaines. Très bientôt, on a la visite de 2 sénateurs qui ont une commission entreprise et climat, qui veulent venir comprendre comment ils peuvent aider et ils ont choisi les bottes d'anémone. Et donc, on va réussir à changer des choses petit à petit. Et là, je me dis, ouais, je suis sur la bonne voie. Et ça me nourrit. Et ça fait que le matin, je me dis, allez, go, je suis crevée, mais j'y vais parce que là, il va se passer des trucs, quoi.
Ouais, c'est fabuleux. Vraiment.
Ouais, c'est ça qui me nourrit, moi, maintenant.
Ouais, j'imagine.
Après, évidemment, quand on est à la cueillette... C'est ma bulle aussi, tu vois.
Ouais, mais t'as les deux. Les deux.
Et puis si ça va pas, je mets la tête dans un seau de fleurs qui est à l'atelier et j'inspire profondément et c'est reparti.
En fait, tu fais travailler tous tes sens.
Ouais, oui, il y a vraiment un éveil de tous les sens. Ouais.
Tout ça, j'imagine, ça va énormément parler à tous les auditrices et auditeurs parce que c'est chouette. Puis on sent bien que ça t'anime totalement, que ça te nourrit, comme tu le dis, et t'es totalement alignée.
Et moi, ce que j'espère, c'est que ce que je vis, moi, au quotidien, depuis que j'ai créé les bottes d'anémone, c'est vraiment une transformation au service de ce que je comprends petit à petit des enjeux. Et au début, c'était un truc, c'est pas logique, on devrait pas importer les fleurs, donc je vais pas importer les fleurs. Tu vois, c'était vraiment très pragmatique, là, à l'anglo-saxonne, puisque c'est comme ça que j'ai évolué au début. Et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup plus de choses sur voilà l'état de la biodiversité, ce qui se joue sous nos pieds, l'importance de la santé du sol, un ver de terre à quel point c'est important, l'eau, la ressource en eau. J'ai compris aussi il y a moins de 6 mois que les fleurs c'est un outil d'émerveillement et que cet outil doit être mis au service pour transformer et inspirer à transformer et que c'est un outil. On a la chance qu'il y a un gros capital sympathie. On n'est pas en train de montrer, je vais dire un truc qui me bouleverse profondément, mais un pingouin ou un manchot qui n'a plus de banquise et qui est en train de se noyer, montre un truc qui inspire de la beauté et qui réveille tous les sens. Donc c'est encore plus puissant parce qu'on n'est pas en train, encore une fois, tu sais, de culpabiliser les gens. On leur dit, regardez comme c'est beau, venez voir, venez comprendre comment on fait pour avoir tout ça et aidez-nous à changer et changeons tous ensemble pour... arriver
ça.
À ce monde, ouais, garder ça et
le préserver.
Préserver, ouais, ouais. Exactement.
Et en effet, ce que tu dis aussi est très juste parce que c'est vrai que dans la démarche de la transition écologique, on reproche beaucoup à cette démarche, en fait, d'être négative, de ne pas donner envie.
Oui.
Et comme tu dis, là, on bascule plutôt sur de l'émerveillement et l'envie, en fait, voilà, de préserver ces fleurs qui sont toutes magnifiques les unes que les autres, quoi.
Oui. Et il y a cette citation, je crois que ça vient de Cousteau. Il a dit « On protège ce qu'on aime ». Les fleurs, assez vite, moi, je me suis jamais pris un bouquet. Tu sais, dans la tronche en disant « j'en veux pas de ton bouquet de fleurs, merci, non merci ». Forcément, quelqu'un qui reçoit un bouquet de fleurs, il plonge son nez dedans. Ouais. Et du coup, on aime les fleurs, donc on a envie de les protéger. Et du coup, il faut que nous, on lie les ponts, on reconnecte les gens au vivant et à ce qu'ils jouent à travers quelque chose qu'ils aiment. Mmh.
Complètement. Et je reviens à ce que tu viens de dire aussi, là. Les fleurs qu'on achète aujourd'hui dans certains commerces n'ont plus de parfum. Et là, tu viens de dire, on plonge dedans parce qu'on a le parfum. Donc, oui. On gagne ça aussi.
On gagne ça et on gagne un spectacle incroyable. C'est-à-dire que, elles n'ont plus de parfum et elles sont aussi un peu standardisées, calibrées. Il y a des calibres de fleurs, des calibres de longueur de tige, de grosseur du bouton, de tout ça. Le côté un peu mondialisation, comme toutes les industries, bah, les fleurs en font partie. Et en fait, les fleurs de saison, les fleurs locales, les fleurs françaises, elles ont poussé dans un champ où on admire quand elles tortillent un peu de la tige. Et donc, en fait, il y a vraiment une danse des fleurs. Alors, toutes les variétés ne le font pas. Mais en ce moment, c'est les tulipes. Les tulipes, quand elles continuent de pousser dans le vase. Moi, mon bouquet que j'ai ramené à la maison la semaine dernière, il fait déjà le double en longueur. Je suis obligée de les recouper pour que ça tienne dans le vase. Une anémone, il y a le petit coup, elle a la tige qui se tortille. Bah, si l'anémone, elle est blindée d'intrants chimiques, il ne va plus se passer grand-chose une fois qu'elle est chez les gens. Il se passe plein de choses dans une fleur vivante, même si elle est coupée. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens. Après, il faut qu'ils aient le bouquet chez eux pour se rendre compte de tout ça. Et on a des retours très beaux et très forts en disant « Waouh,
j'ai jamais
vu une fleur comme
ça. » Tu as aussi le retour des clients.
Mmh. Ouais, oui. On ne l'a pas toujours, tu vois, parce que ça, c'est un effort d'aller donner un retour positif. En tant qu'humain, plus facilement, on ira dire si on n'est pas content.
Et c'est très français.
Oui, ouais, en plus. Mais tu vois, il y a un mois, c'était la Saint-Valentin. Tu n'imagines pas les retours qu'on a eus. C'était super, quoi. J'ai jamais reçu un bouquet comme une dame de 90 ans qui a, de par sa vie, reçu beaucoup de fleurs. Et elle m'a téléphoné sur mon numéro perso, je ne sais pas comment elle l'a eu, et elle m'a dit « Tiffaine, je vous félicite, je n'ai jamais vu de fleurs comme ça. »
Eh bien alors ?
De ma vie, donc elle a 90
oui.
ans.
Oui.
Et là, moi, là, je ne peux que être hyper émue et fière du truc, quoi.
Mais tu peux. Eh bien, écoute, on va conclure ce bel épisode, très riche, très aligné. Une dernière question aussi. Tu es originaire de Bretagne.
Oui.
Des Côtes d'Armor, il me semble.
Oui, exactement. Ouais.
Est-ce que tu as un lieu préféré en Bretagne? Sûrement en bord de mer.
Oui, oui. Mon lieu ressource, c'est les Glénans. Parce que très tôt, je crois que j'avais 14 ou 15 ans, ma mère m'a envoyée là-bas pour faire de la planche à voile, pour apprendre la planche à voile. Et j'étais une obsédée de la planche à voile. Et j'y suis retournée tous les étés pendant plus de 10-15 ans. Et je suis devenue petit à petit monitrice. Après, j'ai formé les moniteurs. Après, je suis devenue responsable de site. J'ai là-bas appris tellement de choses aussi en leadership. T'as même pas 20 ans et tu gères la santé et la sécurité de 300 mineurs. Et tous les moniteurs autour et tout. J'ai fait mes rencontres les plus amicales qui sont toujours là, et mon conjoint que j'ai rencontré là-bas. Et en fait, c'est des valeurs très très fortes et qui du coup, quand on se rencontre là-bas, on est tous des passionnés de plusieurs choses. On est tout de suite alignés et il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent. Et surtout quand on y retourne, ça veut dire que vraiment on a... Et voilà, donc les Glénans, à la fois pour la beauté du lieu, mais aussi pour tout
ce que
parcours
tu y as vécu,
vie.
En fait.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent?
Tellement de choses. Aux femmes qui nous écoutent, je pense qu'un des trucs les plus importants, sortez le nez dehors toute seule et sentez ce que vous voulez sentir et reconnectez avec vos sens. Et je pense que ça apporte beaucoup de bien-être, de légèreté, ça libère l'esprit d'être dehors et ça ramène un peu l'enfant, pas d'inquiétude, pas de stress, pas de responsabilité. On fait ce qu'on veut et si on veut s'allonger dans les pâquerettes, on s'allonge dans les pâquerettes. Et quelqu'un m'a dit « chassez les papillons, les gars !» Et en fait, chassez les papillons, les filles, quoi. Et dans le contexte du monde dans lequel on est, je pense que ouais, c'est le truc que j'ai envie de dire.
Ouais, tout à fait. Et tu vois, je te rejoins parce que moi, ce que je dis aussi des fois à mes enfants, je dis « allez dehors et faites jouer tous vos sens.
» Oui.
Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, et voire même le goût, parfois. Donc, et ça, voilà, ça ressource.
Oui, ça ressource. Et on a perdu ce lien. Et on a perdu l'habitude de rien faire. Et donc, regardons les oiseaux. Il se passe tellement de choses dehors, c'est un truc de fou. Ouais,
carrément, carrément. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Tiffaine, pour ce très, très chouette échange. Très, très inspirant de nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose avant de se quitter ?
Non, juste te dire un très grand merci pour tes questions qui m'ont emmené beaucoup dans les sens et dans les émotions. Et c'était très chouette aussi pour moi.
Ouais, ben écoute, oui, j'ai senti que tu te livrais. Et, je pense que c'est lié aussi à ta personne. Donc, ça a été très facile aussi pour moi. Eh bien, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre les fameuses 5 étoiles sur votre plateforme préférée parce que c'est ce qui me permet, moi, de me soutenir dans mon podcast. Faites-moi part de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Kenavo!